Le chinois, il faut savoir que c'est quelqu'un qui achète tout ce qui se vend. On est face à des holdings d'investissement. Ils peuvent venir acheter un immeuble haussmannien ou bien ils peuvent acheter un relais château, quoi.
On a essayé d'avoir des contacts avec eux sans aucun succès, hein, voilà. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent faire, donc on peut imaginer le pire.
Si ce ne sont que des fonds d'investissement, qu'ils soient français ou étrangers, qui sont propriétaires des terres et qu'ils les font exploiter par des salariés, on aura des conducteurs de tracteurs qui habiteront en ville et on n'aura plus personne qui habitera dans la campagne.
Ce sont des chiffres qui font tourner la tête et ils sont à l'image du gigantisme de l'empire du milieu. La Chine a investi hors secteur financier plus de 100 milliards de dollars à l'étranger en 2014. Il faut dire que sa banque centrale possède plus de 3200 milliards de dollars de réserves de change. Même si ce trésor de guerre est en train de fondre, il permet de financer tous les rêves possibles. En France, il se nomme Club Med, aéroport de Toulouse-Blagnac dont l'actionnaire chinois possède 49%, ou encore PSA, ou dont Dongfeng détient un cinquième des droits de vote. Voilà pour les plus spectaculaires prises de participation. Mais la Chine, qui construit aussi des barrages, des centrales électriques, des autoroutes dans le monde entier, la Chine doit penser à son ventre. Plus d'1,3 milliard Chinois qui vivent sur moins de 8% des terres arables de la planète. Terres souvent très polluées, qui plus est, avec l'exode rural, une classe moyenne en forte augmentation qui veut manger plus de viande ou de lait, des scandales sanitaires récents qui ont détourné les consommateurs de certains produits locaux et une forte sécheresse, Pékin se tourne donc vers l'étranger. La Chine achète des terrains immenses, elle produit son soja au Brésil, de l'huile de palme au Congo, elle a voulu reprendre presque 1% des terres cultivables d'Australie au printemps dernier. En France, son appétit s'est d'abord concentré sur le vignoble où nous irons ce soir. La moitié des ventes de domaines bordelais se font en ce moment au profit d'investisseurs chinois. Mais à présent, des fonds de pension s'intéressent même aux campagnes. Dans l'Indre, 1700 hectares sont ainsi devenues propriétés chinoises. Les investisseurs ont profité d'une faille juridique. Quand la Chine dévore les terres françaises, c'est un magazine signé Anne-Laure Choin. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes ce soir avec Jean-Marc Chaumet, qui est agro-économiste à l'Institut de l'élevage. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez aussi à Apsis et vous êtes également rédacteur en chef de la lettre sur l'agriculture chinoise qui se nomme Chine Apsis. Et puis nous sommes avec Emmanuel Yest. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes président des SAFER, c'est-à-dire des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. On va avoir l'occasion de voir à quoi elles servent précisément. Et nous sommes également avec Anne-Laure Choin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Tara.
Vous rentrez du Berry où vous avez rencontré des agriculteurs qui parlent de cette arrivée des Chinois sur leurs terres.
Oui, et ça a suscité beaucoup de réactions, d'inquiétudes et, disons-le aussi, de fantasmes. Tout cela encouragé par une aura de mystère qui règne autour de la vente de ces terres. Une vente que les agriculteurs du coin ont apprise via le journal local, La Nouvelle République en l'occurrence, et cela plusieurs semaines après les faits. Alors, comme tout est secret dans cette histoire, on n'a pas les chiffres précis des surfaces totales rachetées, mais on parle effectivement de près de 2000 hectares, peut-être plus dans les mois à venir. Ce ne sont pas les premiers investisseurs étrangers dans l'Indre. Et en France, les Chinois, comme d'autres nationalités, ont investi dans d'autres secteurs agricoles. Mais la terre est un sujet sensible qui touche aussi au devenir de notre modèle paysan. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu en savoir un peu plus sur les enjeux de ces rachats de terres.
Et pour rendre le phénomène que vous disiez assez secret, plus visible, plus concret, vous êtes allé d'abord à Nord, dans le vignoble bordelais, où les propriétaires chinois sont maintenant nombreux.
Bon voilà, les affaires reprennent, excusez-moi.
Donc ça c'est l'exploitation familiale et il reste 8 hectares. 8 hectares que je suis en train de restructurer pour vraiment préparer et finaliser ma vraie retraite.
Donc là on a du raisin blanc, c'est quoi le...
Oui, du Sauvignon blanc. Sauvignon blanc. C'est la base des vins blancs secs de Bordeaux.
Et qui va être vendangé a priori lundi, là ?
Lundi, on vendange. C'est la bonne date. Ici, c'est des sols profonds, donc les vignes n'ont pas souffert de la sécheresse. Et la feuille joue encore son rôle, est en train de brûler des acides et générer du sucre.
Pineuil sur Gironde, dans les alentours de Bergerac. Les vendanges se préparent. Et pour Jean-François Aussard, ce seront les premières vendanges de la retraite. Avec l'aide d'un cabinet de transactions spécialisé dans la vente d'exploitations agricoles, Quatuor, il a conclu il y a quelques semaines seulement la vente de sa maison et de ses vignes à un investisseur chinois. Contrairement à beaucoup d'autres vignerons qui ont cédé leur exploitation, il a bien voulu me rencontrer en compagnie de celui qui s'est occupé de la transaction, Geoffroy Bréchotte.
Alors on se dit, mais c'est très cliché, mais je vais le dire quand même, qu'un domaine viticole dans le Bordelais, c'est un bien prisé.
Non, c'est pas faux. Bordeaux a la chance d'attirer les acheteurs depuis longtemps, et notamment les acheteurs étrangers, puisque voilà, statistiquement, le vignoble de Bordeaux est possédé en bonne part par des acheteurs étrangers. Maintenant, un vignoble à Bordeaux, ça veut tout dire et pas dire grand-chose. C'est-à-dire que on a les vignobles, je dirais, qui représentent la masse des viticulteurs bordelais, dont fait partie encore Jean-François Aussard, puisqu'il a encore quelques vignes. Mais voilà, la propriété moyenne sur Bordeaux, c'est une vingtaine d'hectares en appellation Bordeaux ou Côte, et des propriétés qui, jusqu'il y a 15 ans, n'étaient pas très nombreuses sur le marché. Et depuis 15 ans, notamment par les difficultés de commercialisation du vin, on a un certain déséquilibre entre l'offre de propriétés à vendre et la demande. Donc c'est prisé, on continue à faire des ventes. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, les principaux investisseurs étrangers, voire les seuls, sont les Chinois. Mais il y a encore des Français qui achètent des vignobles, des gens qui sont en reconversion professionnelle, des professionnels viticoles aussi locaux qui continuent parfois à acheter et à s'agrandir. Donc voici les principaux acheteurs de vignobles, mais il ne faut pas croire non plus que le viticulteur bordelais est un nanti et que tous les viticulteurs bordelais sont imposés à l'ISF.
Jean-François Aussard, lui, a vendu sa maison et ses 30 hectares, dont 23 de vignes, 7 ans tout de même après s'être mis en quête d'un acquéreur, aux alentours d'1 million d'euros.
Le prix avait été négocié, je dirais, en amont avec Quatuor et Geoffroy. Et le prix qui a été proposé n'a jamais été renégocié. Donc je veux penser que je n'ai pas vendu assez cher. Non, je plaisante. Je veux penser que le prix était bien calé. Bon, après, ils ont fait leur marché. Ça, on le veut, ça, on le veut pas. Au niveau du matériel, ça, on le veut, ça, on le veut pas. Pas de problème. Il n'y a pas eu de soucis. Finalement, ça a été fluide.
Et le fait que ce soit un acquéreur chinois, ça vous a posé aucun problème?
Comment je dirais? Déontologiquement, même si dois avoir de la déontologie, mais j'avais suffisamment fait le tour des popotes dans le coin, à la SAFER, au niveau local. Tout le monde savait que Aussard était à la vente. Mmh. Et donc, qui en voulait s'approche, et personne ne l'a fait. Donc, après 60 ans sans repreneur, ça devenait pas crucial, mais ça devenait important que je puisse réaliser.
Je pense que M. Aussard s'est peut-être posé la question à un moment d'arracher sa vigne. Je le pense parce qu'il me l'a dit. Donc voilà, ça permet aussi de maintenir une production de qualité chez des gens qui, forcément, en se mettant à la place des vendeurs, si ça fait 5 ans qu'ils essayent de vendre, qu'il n'y a pas de piste au bout d'un moment, on a beau aimer son travail, on arrive à un âge où on a le droit de profiter de sa retraite. Et s'il n'y a pas d'autre solution, comme on peut avoir des subventions pour arracher, on va arracher le vignoble.
Là, la vente est faite.
La vente est faite, oui.
J'étais en contact donc moi avec un relais local du Chinois qui a investi, et donc le jour de la visite où on a visité deux propriétés assez similaires, on va dire, on a donc fait cette visite qui a été assez rapide avec à la fois le relais local et l'acheteur final qui lui encore une fois découvrait la région bordelaise, le vignoble. Il avait un goût pour le vin de Bordeaux et voilà, une attirance mais pas plus. Donc voilà, pour l'anecdote, on a fait le tour des vignes. Je ne pense pas qu'il ait regardé la vigne, mais plutôt les terres et les bois qui étaient sur la propriété. Il est à peine rentré dans les bâtiments, à peine rentré dans la maison. Ça a été assez rapide. Et donc on s'est quittés, bons amis certes, mais sans réelle conviction. Alors j'en avais peut-être plus que Jean-François Aussard, qui a moins l'habitude, parce que j'ai l'habitude des surprises. Mais c'est vrai que quand on n'aurait pas pu imaginer qu'il achète suite à cette première visite. Et donc, dès le lendemain, son relais local m'a contacté par téléphone, me disant que ce monsieur était très intéressé par cette propriété et qu'il voulait acheter avant de partir, en gros. Donc, il partait le lendemain. Finalement, il a repoussé son billet d'avion d'un jour. Et donc, moi, je lui ai dit, ça va être compliqué de devenir propriétaire avant votre tour. Par contre, on peut embrayer les choses pour arriver, dans un certain délai le plus court possible, à ce que vous soyez propriétaire. Et dès que je suis arrivé, il a sorti sa carte bleue me disant que je pouvais prélever la somme de 10% du montant, ce en quoi, n'ayant pas de terminal, on est quand même allé chez le notaire et on a fait les choses dans les règles.
10%, donc on parle de 100 000 euros. Là.
On était dans ces eaux-là, oui.
Quel était le projet de cet acheteur? J'imagine que ce n'est pas cet acheteur-là qui va venir s'installer dans la propriété pour exploiter lui-même.
Non, pas du tout. Il y a un relais sur place qui va se charger de toute la partie technique jusqu'à l'élaboration et même conditionnement du vin avant expédition en Chine.
各位朋友大家好，欢迎收看 Yowan Video。
Ça n'est plus un secret, le vin de Bordeaux connaît un succès foudroyant en Chine. La région est devenue un Eldorado pour les investisseurs. Aujourd'hui, la moitié des propriétés en vente dans le vignoble bordelais trouvent un acquéreur chinois. Au total, près de 135 appellations châteaux. Un phénomène qui s'est rationalisé ces dernières années. Michel Verrier dirige Vinea Transactions, un réseau spécialisé dans la transaction de propriétés viticoles.
Le chinois, il faut savoir que c'est quelqu'un, je dirais un peu avec humour, qui achète tout ce qui se vend. Et le chinois a découvert le vin comme un produit intéressant de consommation et énormément de Chinois se sont engouffrés dans l'investissement de propriétés viticoles avec une approche extrêmement ciblée et extrêmement exclusive au vignoble bordelais. Et c'est une question également d'offre parce que Bordeaux a la chance d'avoir énormément de petits châteaux et c'est vraiment l'image d'Épinal. Et donc, dès que l'investisseur chinois arrive sur Bordeaux, il trouve exactement ce qu'il recherche, c'est-à-dire un joli petit château, pas très cher, un vignoble avec une superbe image sur le marché chinois. Et donc, il arrive très facilement à faire ses courses. Sur la première action des investisseurs, c'était tout feu tout flamme, avec une méconnaissance totale des produits, du vin, de l'intérêt du vin. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils rentrent par une porte qui est beaucoup plus professionnelle. Personnellement, j'interviens sur des cours dans des universités en France et j'ai un public qui peut représenter jusqu'à un tiers de Chinois qui sont là pour se former au vin, à la culture du vin et à la connaissance du vin. Donc je pense que l'approche va être de plus en plus sérieuse et pertinente.
Est-ce que les investisseurs chinois sont des clients comme les autres? Est-ce qu'il y a une spécificité à traiter avec ces acheteurs-là?
Depuis 25 ans, je fais de la transaction. Je pense avoir tout vécu. Et avec les investisseurs chinois, ce qui est un peu déstabilisant, c'est qu'ils sont dans une logique où ils vont vous poser la question sur un sujet que, pour vous, c'est un sujet archi-secondaire. Donc, et ça me fait penser à la fameuse boutade concernant la chinoiserie, quoi. Donc, il y a beaucoup de chinoiserie. Donc, ce qui fait que les éléments principaux de la négociation peuvent se passer très bien, très facilement. Et des éléments secondaires peuvent venir perturber la négociation, voire l'arrêter, quoi, ou la stopper, quoi.
Et alors, par
c'est
exemple,
assez déstabilisant. Ça peut être sur, bêtement, la dimension d'une piscine que l'on veut modifier au pied levé ou sur le déplacement d'un chemin communal qui est un petit peu trop proche de la maison ou sur une parcelle d'un voisin qui est enclavée dans la propriété. Et l'investisseur chinois, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas l'acheter, quoi. Donc, c'est toujours un peu perturbant de voir l'attache qu'ils ont sur certains éléments de négociation qui sont, à nos yeux, des éléments qui restent un petit peu secondaires, quoi. On doit s'en accommoder, voilà. Et eux, dans leur culture, c'est des choses qui ne sont pas forcément maîtrisables, quoi. En fait, face à vous, vous avez des investisseurs qui sont multi-activités, qui sont dans l'alimentaire, qui sont dans le commerce de l'ameublement, qui sont dans l'activité des carrières de marbre, vous voyez. Donc, c'est des gens qui ont 5-6 activités qui se superposent. Et donc, on est face à des holdings d'investissement. Et ce sont des gens qui viennent acheter une propriété. Ils peuvent venir acheter un immeuble haussmannien ou bien ils peuvent acheter un relais château, quoi.
Alors, est-ce que vous arrivez à savoir, une fois l'achat, la transaction effectuée, ces vignobles, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'il y a un exploitant non chinois qui reste en place? Est-ce que les vins produits sur ce château, par exemple, achetés, partent directement en Chine? Et quelle est la suite dans ces domaines-là rachetés?
Disons que le schéma est tout de même assez intéressant, puisque d'une part, l'investisseur chinois fait appel à des professionnels locaux. Nous, on fait une transaction sur les Côtes-du-Rhône. L'ancien propriétaire est resté comme directeur technique et directeur de production. Il est toujours là. Donc, ça satisfait énormément la maîtrise technique du produit. Et à côté de cela, les vins partent sur la Chine à 90%. Si on reprend l'exemple de Bordeaux, si on regarde les statistiques des ventes, 15% de la production de Bordeaux part sur l'Asie, ce qui est énorme. Donc, ce qui veut dire que tout acheteur de propriété sur le Bordelais et un degré moins dans les autres régions, 95% des ventes partent directement sur le marché chinois, quoi. il faut quand même pas perdre de vue que en France la consommation du vin baisse. Donc l'avenir de l'économie de la filière vin en France repose sur l'international. Et du fait de la présence de ces étrangers qui sont de véritables ambassadeurs pour les vins français, on s'aperçoit que le milieu économique, le milieu professionnel qui au début critiquait un petit peu cette présence-là, il s'aperçoit qu'il faut composer avec et il faut être, je dirais, partie prenante dans leur démarche. Parce qu'aujourd'hui, ils représentent, nous on avait comptabilisé 15 000 hectares de vignes sur 600 000, ça fait 2-3% du vignoble qui est sous tutelle étrangère. Quoi. Et pour nous, ce sont de beaux et de véritables ambassadeurs.
La tutelle chinoise sur une partie du vignoble bordelais est bien implantée désormais. Certes, les montages financiers qui sont mis en place sont parfois opaques et ont pu servir, ou servent encore d'ailleurs, à blanchir de l'argent sale. Mais depuis quelques mois, l'investissement chinois dans l'agriculture française a pris une autre dimension. En fin d'année dernière, plusieurs milliers d'hectares de terres à céréales ont été vendus dans le Berry, au sud du département de l'Indre. 4 exploitations au total vendues à des acquéreurs chinois, dont la plupart n'ont aucun lien direct avec l'agriculture. Et dans ces exploitations qui ont changé de main, personne n'est présent pour nous en dire plus.
Alors on est ici à la Tournancière, dans la commune de Vendeuvre, dans une partie de l'Indre qui s'appelle la Brenne, complètement grillée par la sécheresse, là autour de nous, c'est tout sec. Et on est dans une exploitation où il n'y a pas âme qui vive. Pas de chien, pas de chat, pas de poule, pas d'animaux, pas de chevaux, pas de vaches, pas d'humains, pas une voiture. Un gros cadenas qui ferme un portail et puis... Une petite maison qui a l'air abandonnée, complètement fermée, et un corps de ferme recouvert par le lierre. Pourtant, il y a des bottes de foin dans un camion, mais c'est tout. On n'entend que le vent et rien d'autre. Puis des champs autour à perte de vue, grillés. Voilà la Tournancière, donc une exploitation qui a été rachetée à un bon prix hein, par des investisseurs chinois. On ne sait pas qui a vendu, on ne sait pas qui a acheté exactement.
En déroulant le fil, il s'avère que les terres ont été acquises par plusieurs entités, deux entreprises chinoises notamment, et un particulier qui aurait servi d'intermédiaire pour l'ensemble des opérations. Il s'appelle Marc Fressange, il est à la tête d'une société nommée Oulala France, société basée à Pékin, qui officiellement s'occupe de diffuser le style de vie français en Chine. Malgré nos sollicitations répétées, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Une discrétion tellement absolue que les voisins de l'exploitation n'ont appris la nouvelle de ces ventes que quelques mois plus tard par la presse locale. Depuis, les rumeurs et les inquiétudes vont bon train, notamment chez les agriculteurs avoisinants. Je me rends à Ruffec-le-Château, dans une exploitation à 30 km de la Tournancière, pour y rencontrer Robert Chaz, président FDSEA de la Chambre d'agriculture de l'Indre.
Quand est-ce que vous avez entendu parler de ces surfaces qui se vendaient et est-ce que vous savez pourquoi elles se vendent? Est-ce que ce sont des agriculteurs qui ne trouvent pas de successeurs, par exemple?
Alors, on ne connaît pas, en fait, le profil de ces exploitants. On le devine, mais on ne les connaît pas. Ce sont des exploitants qui ont participé peu, je dirais, à la vie professionnelle de notre département. C'est des gens qui sont peu impliqués dans le mutualisme, dans la coopération, dans le syndicalisme, dans les réseaux chambres d'agriculture. Bon, toujours est-il qu'on peut supposer, fortement supposer, que la raison de la vente a été de mauvaises affaires, hein, ce qui n'est pas particulièrement étonnant vu les temps qui courent. Mais je pense que la raison principale est celle-ci. Et puis aussi, c'est bête, mais le fait d'atteindre l'âge de la retraite sans forcément avoir de successeur.
Et alors, vous en avez entendu parler à quel moment? Vous vous rappelez?
Alors, c'est 2015. Hein, tout ça s'est passé deuxième semestre 2015. Je pense que ça a été préparé au premier semestre parce que les ventes, quand même, ça met du temps. Hein, on ne vend pas un bien comme ça du jour au lendemain. Voilà, donc tout s'est passé deuxième semestre 2015.
Et alors, du coup, quelle a été la réaction des autres agriculteurs, peut-être des environs, à la Chambre d'agriculture. Est-ce que des questions ont commencé à se poser? Enfin, comment on a réagi à tout ça?
Alors, d'abord, un étonnement, parce que ce n'est pas nouveau que des gens vendent leur exploitation. Ce qui est un peu plus nouveau, mais pas vraiment, c'est que, qu'on vende à des gens d'origine étrangère. Hein, bon, beaucoup de ventes ont lieu vis-à-vis de ressortissants de la communauté européenne, hein, donc des Danois, des Hollandais, des Anglais, des Allemands. Bon, voilà. Là, ce sont les Chinois. Alors, naturellement, ça fait plus exotique, je dirais. Et puis, le deuxième étonnement, c'est que c'est principalement le département qui a été concerné. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 exploitations qui ont été vendues à des investisseurs chinois dans l'Indre. Bon, et quand j'en reparle à mes collègues du Cher et de l'Indre-et-Loire ou de la Creuse, qui sont nos voisins, ils n'ont pas constaté les mêmes choses, hein, pour le moment. Hein. Donc, on est déçu d'abord de ne pas avoir eu de contact, de possibilité de contact avec les investisseurs. On aurait été intéressé de voir ce qu'ils veulent faire. Éventuellement, on aurait pu les aider.
Parce que vous avez essayé, pour le coup, d'avoir des contacts?
On a essayé d'avoir des contacts avec eux sans aucun succès. Hein, voilà. Donc, une certaine déception, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des échanges sur des projets agricoles, parce que, limite, ce n'est pas parce qu'ils sont chinois qu'ils n'ont pas des projets intéressants. Et puis, deuxièmement, une certaine déception, parce que, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent faire, donc on peut imaginer le pire. Et puis, on a quand même des jeunes agriculteurs qui sont intéressés, qui veulent s'installer, et voilà, ben ces exploitations-là, ce n'est pas eux qui les prendront.
On parle de combien d'hectares à peu près?
Alors pour le moment, on en est à 1700, voire 2000 hectares sur 4 exploitations. On a vent, mais bon, après, quand ce genre de phénomène commence, on a beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément justes. Voilà, mais on a vent également de projets sur 2 autres exploitations, mais sans aucune certitude.
Est-ce qu'on sait depuis qu'elles ont été vendues? Si elles sont exploitées, par qui, comment, est-ce que autour...
Alors, on ne sait pas grand-chose, parce qu'en fait, ça a été vendu, la campagne de culture a été faite. Hein, voilà, elles ont été vendues, donc, je dis, en deuxième semestre 2015. Donc, les semis avaient été faits. Donc, aujourd'hui, les récoltes sont faites. Alors, elles sont, comme chez beaucoup d'exploitants dans le département, catastrophiques. Toujours est-il que, pour le moment, vu les conditions météo, il n'y a aucun semis ou très peu de semis qui ont été faits. Donc, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Hein, voilà. C'est le point d'interrogation. Ils ont laissé en état ce qu'ils ont acheté, ce qui était assez logique d'ailleurs. Et puis pour le moment, on va attendre, voir. On en saura plus certainement dans 3-4 mois, puisque là on verra s'ils ont vraiment un projet original, entre guillemets, ou au contraire, ils souhaitent continuer comme ça se passait avant, quoi.
On le verra comment, en fait?
Alors, on le verra parce que c'est l'avantage du reste de l'agriculture, c'est que tout est au soleil, si je puis dire. Donc on connaît les parcelles, on connaît les exploitations. Rapidement, on verra ce qui sera semé, on verra la façon dans laquelle c'est cultivé. Et donc on aura peut-être plus d'informations, sachant qu'aussi les exploitations achetées sont les exploitations céréalières. Pas les exploitations d'élevage, les exploitations céréalières, qui n'ont pas forcément de potentiel énorme. Ce n'est pas les meilleures exploitations agricoles du département qui ont été achetées. Elles ont été achetées assez chères, mais le potentiel agronomique est plutôt moyen, voire bas.
Alors un petit peu plus loin, à 15 km environ de la première exploitation, la Tournancière, je suis allée à Châtillon-sur-Indre, à La Chambris. Alors là, même scénario, si ce n'est qu'en arrivant, il y avait quelqu'un, un ouvrier qui était en train de s'affairer sur un tracteur, qui m'a vite fait signe d'arrêter le micro. Et puis on a discuté un petit peu, enfin ce fut rapide parce que c'était un ouvrier anglais, visiblement, qui m'a donné le nom de son employeur, un certain Simon Weaver. Et il m'a donné son numéro de téléphone également. Je l'ai appelé dans la foulée. Et ce monsieur a vite coupé court à la conversation en disant qu'il ne souhaitait pas me parler des investissements chinois dans l'agriculture française, un monsieur anglais qui visiblement est dans la région et fait donc travailler des personnes anglaises aussi sur cette exploitation. Alors on est dans la même configuration, des champs, plutôt des céréales hein, autour de l'exploitation, des stabulations vides, un grand corps de ferme sans grand-chose autour, avec seulement cet ouvrier et quelques voitures quand même garées là, mais sans personne dedans.
Une discrétion qui confine à l'opacité et qui se retrouve jusque dans le montage opéré par les investisseurs chinois pour passer outre les fourches codines du système français. Un système unique au monde qui fait que la vente de terrains agricoles sur notre territoire peut être l'objet d'un droit de préemption. tout bien agricole mis en vente est censé être soumis à la SAFER. Les SAFER, ce sont les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dont l'objectif est de protéger les terres agricoles. Pierre Marnet est le directeur général délégué de la SAFER en région centre.
Si un propriétaire dans l'Indre nous avait confié son bien à la vente, nous n'aurions pas forcément retenu un acquéreur chinois, nous aurions mis en publicité sur des sites internet et dans des journaux d'annonces légales et pour prévenir tout le monde que ce bien était à la vente, et tout le monde peut être candidat à l'acquisition, et ce n'est pas le premier qui dépose son dossier de candidature qui est l'acquéreur définitif. Pendant un laps de temps donné qui est un minimum de 15 jours, tout le monde peut aller voir la SAFER locale, il y en a une par région administrative, et dire, ben voilà, j'ai vu votre publicité sur ce bien à la vente, ça m'intéresse, voilà mon dossier de candidature. Et dans le dossier de candidature, la personne décrit ce qu'elle veut faire sur le bien qu'elle envisage d'acquérir. Je vais essayer d'être très concret. Vous vendez 50 hectares de terres agricoles, voilà pourquoi ça m'intéresse, parce que je veux installer mon fils, parce que je veux développer un élevage laitier, parce que je veux conforter mon exploitation agricole qui est un peu petite et qui ne me permet pas trop d'être rentable, parce que je veux créer, je ne sais quoi, je vais être ostéopathe équin, enfin que sais-je. Et l'ensemble de ces projets va être présenté aux représentants politiques de nos actionnaires, donc vont être présentés aux représentants de la Chambre d'agriculture, du syndicalisme agricole au pluriel, tous les syndicats sont représentés, aux notaires, aux maires, etc. Et on va leur dire, voilà, il y a cette surface qui est à la vente, dont nous sommes chargés, la SAFER, et voilà le ou les différents acquéreurs potentiels. À vous de choisir celui qui fera le meilleur usage du bien, qui en aura la meilleure rentabilité, qui s'intégrera le mieux dans la politique locale. Si c'est une ferme laitière, ça peut permettre quand même de privilégier quelqu'un qui va conserver l'activité laitière plutôt que quelqu'un qui développerait un élevage de moutons, par exemple. S'il y a une coopérative laitière derrière avec un circuit de collecte du lait, pour l'aménagement du territoire, pour la pérennité des autres exploitations agricoles riveraines, il vaut peut-être mieux conserver un éleveur laitier. Donc il y a une possibilité de choix de l'acquéreur en fonction de son projet.
Alors comment vous avez su que ces terres-là avaient été vendues à des Chinois et qui plus est sans passer par la SAFER? D'abord, quand est-ce que vous l'avez appris et comment?
Alors en fin d'année dernière, fin 2015, par le bouche à oreille, hein, parce que dans la campagne, on ne voit plus l'habituel exploitant sur ces terres, on voit de nouvelles personnes sur l'exploitation, les voisins s'interrogent, nous questionnent pour savoir si nous avons été informés par le notaire du projet de vente et pourquoi cette information ne leur a pas été transmise pour qu'ils puissent éventuellement nous solliciter pour exercer le droit de préemption. Et donc là, en vérifiant évidemment notre système informatique, on constate que nous n'avons eu aucune information du notaire. Donc on est obligé de leur répondre que nous ignorions qu'il y avait eu un changement de propriétaire. On peut peut-être aborder à ce moment-là la réalité de certains dossiers. C'est qu'aujourd'hui, selon le texte de loi, si vous vendez du foncier, donc si vous vendez des hectares, pour faire court, le notaire est obligé d'informer la SAFER, etc., avec donc possibilité d'exercer un droit de préemption. Mais tout le monde ne vend pas des hectares, en fait. Et dans certains nombres de cas, un propriétaire de terre, en fait, a créé une société, donc une société, une entreprise, qui exploite ces terres, mais qui porte aussi, qui est aussi propriétaire des hectares. Et lorsqu'il vend son bien, il ne vend pas 200 hectares ou 1700 hectares, il vend une société. Et il vend donc des parts de société. Et là, vous n'achetez pas 200 hectares, vous achetez X parts d'entreprise et vous devenez propriétaire de la société. Alors avec le compte bancaire, avec les dettes, avec les salariés, etc. Et encore tout récemment, et on pourra peut-être l'évoquer un peu plus dans le détail, mais il n'y a pas de droit de préemption possible lorsque la vente est faite sous forme sociétaire. Il ne faut pas que l'on imagine une transaction sociétaire comme forcément une perversité par rapport à un système légal. Non, dans bon nombre de cas, c'est une vraie nécessité. Ce qui est un peu troublant, c'est lorsque la société est créée quelques jours avant la transaction, et uniquement pour la transaction. Donc là, on est bien sur le contournement d'un système législatif. C'est quand même aussi un vrai problème, parce que si l'on veut garder sur un territoire national une agriculture paysanne avec des familles d'agriculteurs qui font non seulement, ils font pas que produire, ils font vivre la ruralité, puisqu'ils vivent localement, ils habitent sur place, ils font vivre les écoles, le commerce local, ils participent à la vie politique, associative locale, c'est quand même aussi une vraie question. Et si ce ne sont que des fonds d'investissement, qu'ils soient français ou étrangers, qui sont propriétaires des terres et qui les font exploiter par des salariés, on aura des conducteurs de tracteurs qui habiteront en ville et on n'aura plus personne qui habitera dans la campagne. Donc il y a effectivement un vrai sujet sociétal et effectivement, ça va devenir de plus en plus compliqué pour quelqu'un qui souhaite s'installer comme agriculteur en s'installant familialement sur place. Déjà qu'il y a peu de ventes, et que le monde agricole est un monde qui est comme tous les organismes professionnels et qui vit un petit peu autour de lui-même. Si maintenant il y a des acteurs économiques qui n'ont rien à voir avec le monde agricole, qui peuvent acquérir sans avoir aucune obligation et aucune contrainte, ça va effectivement devenir de plus en plus dur de s'installer comme agriculteur en France. Donc oui, on comprend plus que leur inquiétude qui est plus que légitime.
Une agriculture sans paysans, c'est une réalité qui gagne du terrain, particulièrement dans les terres propices aux grandes cultures, les céréales, avec le risque de voir se concentrer dans quelques mains seulement les terrains favorables aux monocultures, aux dépens des exploitations d'élevage qui requièrent, elles, un minimum d'attention humaine. Nicolas Calame élève des chèvres et des vaches allaitantes. Sa ferme se trouve à quelques kilomètres de la Tournancière et de la Chambrisse. Il est le représentant dans l'Indre de la Confédération Paysanne.
Si ce genre de modèle-là se développe avec la progression aussi des productions végétales, donc ici en plus qu'ils sont des rotations assez nulles, colza, blé, orge, et souvent ils enlèvent l'orge, donc c'est colza, blé, blé, agronomiquement c'est nul, et puis il n'y a plus personne, enfin c'est simplifier un système à l'extrême, et c'est réellement la mort des territoires, il faut très peu de monde pour faire ce genre de culture, et il n'y a plus d'élevage, enfin il n'y a plus de vie, c'est obligé.
Et alors, qu'est-ce qui expliquait qu'au début, c'est des terres qui n'ont pas été rachetées par des gens du coin, ou même pas du coin, mais en tout cas qui auraient voulu s'installer? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a autant de surfaces de terres qui sont disponibles pour, bah, du coup, un investisseur, quel qu'il soit?
Pour le plus gros lot de ce qu'ont acheté les Chinois dans le département, ça doit être autour de 1000 hectares. C'est pas n'importe qui peut se permettre d'arriver en disant « Ah oui, je suis intéressé ». Et après, je ne sais pas comment les relations se sont faites entre le paysan en place qui a arrêté de se verser 150 hectares et l'entreprise chinoise qui va les faire aujourd'hui. Mais en attendant, il n'y a pas de contrôle des structures, il n'y a pas de publicité, donc il ne va pas y avoir de concurrence. Mmh. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais quand même, si ça fait un peu de l'emploi, parce que ce sont les voisins de la grosse ferme qui vont faire, on appelle ça du travail à façon. Mmh. C'est-à-dire, comme un entrepreneur vient faire, par exemple, chez nous, on n'a pas de moissonneuse-batteuse, c'est un voisin qui nous fait le battage. Et ben là, on fait faire sa ferme de A à Z, du semis à la récolte, à tout, par une ferme voisine. Sauf que il n'y a pas besoin de grand monde, que le voisin, bah, celui, il est content parce que ça lui permet d'acheter du plus gros matériel et que les paysans, souvent, ils aiment bien le gros matériel. Mais enfin, bientôt, avec les tracteurs sans chauffeur, il y aura quand même besoin de plus personne, quoi. Il faut quelqu'un qui sache gérer une tablette et piloter un tracteur avec sa tablette et tout. On perd 25% des paysans tous les 10 ans. Au dernier recensement qui était en 2010, l'Indre, elle se félicitait parce qu'on perdait que 23-24% alors que la moyenne de la France était à 25%. Bon, si on peut être content de ça, il faut avoir très peu d'ambition. Voilà. On nous explique que c'est inexorable et que de toute façon, moins il y a de paysans dans un pays, enfin c'est un indice de développement. C'est le taux d'urbanisation du pays et moins il y a de paysans, plus on est développé. Alors que nous, à la conf, on dit non, on peut créer de la valeur ajoutée et de la vie dans les territoires avec des paysans nombreux, suffit de répartir les aides différemment et d'avoir des systèmes d'exploitation et d'agriculture un peu plus complexes.
Est-ce qu'il peut y avoir un effet, à votre avis, pour des éleveurs ou des agriculteurs, soit qui n'auraient pas de successeurs, soit qui en ont marre, soit qui n'y arrivent pas, de dire « il y a des Chinois qui achètent un bon prix ». Nous, on veut bien leur vendre nos terres.
Alors ça, c'est une chose que je ne comprends pas. Vu que les prix des terres de la Champagne berrichonne sont bientôt arrivés au niveau des terres de la Beauce, moi, je serais chinois, j'investirais en Beauce. Hein. Franchement. La Nouvelle République, notre journal local, qui avait parlé de l'arrivée des Chinois à la première, a eu apparemment plein de coups de fil de gens, alors paysans ou non, ou propriétaires de champs, qui disaient « Ah, mais moi, je suis intéressé pour vendre à cette société, parce que c'est quand même une bonne réalisation qu'on fait une vente. » De vendre à ce genre de société sans se poser la question de ce que devient le pays derrière, quoi. C'est une courte vue.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture « Quand la Chine grignote les terres françaises ». C'est un magazine signé Anne-Laure Choin, réalisé par Annie Brault. Nous sommes toujours avec nos deux invités, Jean-Marc Chaumet, qui est agro-économiste à l'Institut de l'élevage, et Emmanuel Yest, président de la Fédération nationale des SAFER. Première question à vous, monsieur Yest. On vient bien d'entendre qu'il y avait ce risque d'une agriculture sans paysans, si effectivement de gros investisseurs arrivent comme ça sur certaines terres en France. Peut-être dire un mot quand même du modèle aujourd'hui agricole français, on est plutôt, justement pour l'instant encore, avec une grande domination d'exploitation familiale.
Tout à fait. Alors, ce qui est important, d'abord, je suis président des SAFER, mais je suis avant tout agriculteur.
D'accord.
Responsable, mais agriculteur.
Vous savez de quoi vous parlez.
Je sais de quoi je parle et je pense qu'effectivement, le modèle agricole français, il est très majoritairement familial, que ça soit avec des exploitants qui sont sous forme individuelle, donc qui exploitent eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'une société familiale, souvent. Mais on reste dans un modèle d'agriculture qui va depuis des petites exploitations jusqu'à des grandes. Mais on est dans un modèle familial, ce qui veut dire que l'exploitant maîtrise à la fois le financement, les décisions et le travail sur son exploitation avec sa famille.
Il n'y a pas quand même quelques grosses fermes, par exemple des gros céréaliers qui existent déjà, qui auraient, comme on vient de le dire là, peut-être quelques centaines, milliers d'hectares parfois ?
Alors, quelques centaines d'hectares, il y en a. Il y en avait dans ma région déjà au 19e siècle. C'est pas nouveau. Par contre, quelques milliers d'hectares, on commence à en voir, effectivement, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est depuis 4 ou 5 ans on va en parler, mais le problème de financiarisation est quelque part derrière cet agrandissement très important.
Alors justement, est-ce qu'on ne se dirige pas petit à petit vers ce qu'on appelle une agriculture de firme, c'est-à-dire non pas des immenses espaces, mais surtout des capitaux extérieurs, des capitaux qui ne sont pas celui de l'agriculteur qui exploite?
Alors, malheureusement, c'est ce qui est en train un petit peu de se passer, alors que on pouvait imaginer qu'en France, depuis 1960, l'époque où les SAFER ont été mis en place, les SAFER sont l'objet des SAFER, c'est de contrôler, de réguler le marché foncier, à la fois en termes de transparence du prix, puisque grâce à ça, on est sûr que le prix qui est mis sur la table est le prix réel, puisqu'on peut préempter. Et si, comme ça se passe dans certains endroits, le prix n'était pas le bon, on préempte en dessous du prix, les gens ne jouent pas deux fois. Donc, il y a une transparence, et puis il y a surtout l'objet des SAFER qui est majoritairement de permettre l'installation des jeunes agriculteurs ou de conforter les agriculteurs qui ont des exploitations petites ou moyennes et qui ont besoin donc de s'agrandir, de se restructurer. On en a parlé, une parcelle qui est enclavée, on peut la restituer à quelqu'un justement qui est au milieu de l'enclave.
Alors, on va évidemment continuer sur ce sujet, mais d'abord un mot avec vous, Jean-Marc Chaumet. En Chine, on imagine que le modèle agricole, on imagine déjà la taille de la Chine, est forcément extrêmement différent de notre modèle français. Comment fonctionne l'agriculture chinoise et pourquoi les Chinois ont-ils besoin finalement de venir acheter des terres justement jusque dans l'Indre?
Alors, sur le modèle agricole chinois, il faut savoir qu'il y a... Il est en pleine transition. Il y a à peu près 200 millions d'exploitations agricoles en Chine qui font en moyenne un peu plus d'un demi-hectare de surface. Et ça vient de la distribution des terres à la fin des communes populaires.
Donc, toutes petites
exploitations qui sont majoritairement familiales. Aussi. Ce sont majoritairement des exploitations familiales. Mais il y a aussi un exode rural en Chine. Vivre sur 0,5 hectare, dégager un revenu suffisant sur 0,5 hectare, ce n'est pas, on n'y arrive pas. Et donc, comme les salaires sont beaucoup plus élevés en Chine, il y a un exode rural qui se fait, qui est voulu par le gouvernement. Aujourd'hui, il y a 55% de la population qui est urbaine et on estime qu'en 2030, ce serait 70%. Et donc, il y a un départ des agriculteurs vers la ville et ceci pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a des surfaces qui ne sont pas cultivées. 7 millions d'hectares en Chine ne sont plus cultivés puisque les gens partent. Et donc, et les gens qui restent sur place, ben, sur 0,5 hectares, ils n'arrivent pas à vivre. Donc le gouvernement chinois s'est mis à transférer les terres, tout un programme de transfert des terres pour que les gens qui partent en ville puissent donner leurs terres à ceux qui restent. Et donc ceux qui restent peuvent continuer à cultiver les terres parce qu'il n'y a pas assez de terres en Chine. Donc si en plus il y en a qui ne sont pas cultivés, ça va poser de gros problèmes. Et puis dégager un revenu suffisant. Et donc on passe d'une agriculture qui était familiale et qui reste majoritairement familiale puisque la plupart des terres sont transférées d'une famille à une autre, mais elles sont aussi transférées à des sortes de coopératives, mais aussi à des entreprises qui intègrent la production avec des salariés. Et ça, c'est vrai pour les cultures. On trouve des exploitations de 2000 hectares avec des salariés. Et c'est vrai aussi pour les productions animales. On trouve des fermes de 10 000 vaches jusqu'à 40 000 vaches.
Et alors, ce sont ces entreprises-là qui viennent investir dans les terres agricoles en France et à l'étranger ou parce que souvent, elles n'ont pas de lien direct avec l'agriculture.
Alors, il y a en Chine un phénomène qui est très, très, très accepté, connu, mais qui est plus difficile à accepter en France, c'est la diversification. C'est-à-dire que des entreprises qui sont dans le milieu de l'immobilier peuvent investir dans l'agriculture ou autre. Je prendrai juste un exemple qui est la plus grosse entreprise d'alimentation animale en Chine et même en Asie, qui est New Hope, qui a été formée par trois frères, qui est donc spécialisée dans l'alimentation animale, qui maintenant possède des banques et des assurances. On ne verrait pas Lactalis en France ouvrir une banque ou Danone ouvrir une
Mais ça, c'est perçu comme presque normal.
C'est tout à fait normal en Chine et ça, dans tous les secteurs. Donc, que des gens extérieurs à l'agriculture viennent investir dans l'agriculture, pour des Chinois, c'est tout à fait normal.
Mais alors, encore une question, est-ce que les Chinois ont besoin d'aller à l'étranger acheter des terres en ce moment pour une raison la Chine est-elle autosuffisante en matière agricole ou a-t-elle besoin de terres étrangères?
Alors, la Chine est de moins en moins autosuffisante. Elle a un déficit agroalimentaire, commercial agroalimentaire qui ne cesse de se creuser, qui est aujourd'hui à près de 50 milliards de dollars. Depuis son entrée dans l'OMC, elle importe de plus en plus. Elle importe pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assez de terres, parce qu'elle a des terres polluées, vous l'avez dit, elle a des ressources hydriques aussi polluées. Elle importe parce qu'elle a des prix intérieurs très élevés, et donc c'est beaucoup moins cher aussi parfois d'importer du marché mondial. Et elle importe à cause de problèmes de sécurité sanitaire des aliments. Donc elle importe pour toutes ces raisons, mais quitte à importer, alors déjà dans les textes officiels c'est importer à un niveau approprié, c'est-à-dire importer mais pas trop, et en plus s'il faut importer, autant essayer de contrôler au maximum ce qu'on importe.
Donc éventuellement d'acheter, de produire sur place. Voilà. Oui, d'où la question de savoir ce qui va pouvoir peut-être être produit, c'est ce que Anne-Laure a essayé de savoir.
Dans ces fameuses terres qui ne sont pas les plus fertiles, ni du département, ni de la France d'ailleurs.
Emmanuel Liest, oui. Est-ce qu'on sait ce qui... Enfin apparemment on ne sait pas, mais est-ce que par exemple ils vont venir produire du soja, puisque visiblement les Chinois ont un problème de production de soja, vous nous le direz peut-être tout à l'heure, Monsieur Chaumont.
Alors on ne sait pas, et on l'a entendu dans le reportage, et moi je suis incapable de vous dire ce qu'ils vont faire. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des investisseurs ont changé leur façon de faire. Avant, il y avait des investisseurs qui n'étaient pas agriculteurs, qui voulaient acheter du foncier. Et ça, c'était gênant, mais quelque part, ça n'empêchait pas l'exploitation agricole par des agriculteurs. Alors qu'aujourd'hui, majoritairement, les gens qui investissent, et c'est le cas là des Chinois, ont acheté des exploitations agricoles, des sociétés d'exploitation. Et donc, l'objet principal, c'est d'abord l'exploitation du foncier pour produire de l'agriculture. Je pense que dans un premier temps, ils vont produire ce qui était produit, c'est-à-dire des céréales et des choses comme ça.
Et donc, c'est pas finalement très inquiétant. Enfin, moi,
est-ce qu'on sait, par exemple, s'ils travaillent avec les coopératives du coin,
Je pense que ce qui peut être inquiétant, et les Français l'ont oublié parce que je pense que les agriculteurs français ont certainement trop bien réussi leur métier, c'est qu'aujourd'hui, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir un ticket de rationnement ou une queue pour acheter de la nourriture. Sauf que si majoritairement, ou même de façon substantielle, les terres agricoles étaient achetées par des financiers étrangers. Le financier étranger qui est propriétaire, il est propriétaire de la production agricole. Et donc, il l'amène dans son pays. On pourrait se retrouver en perte d'autonomie alimentaire. Il faut quand même savoir que l'Europe, aujourd'hui, importe l'équivalent de 35 millions d'hectares. C'est-à-dire que d'ores et déjà, l'Europe est obligée d'acheter à l'étranger pour pouvoir acheter l'ensemble de ce qu'elle a besoin. Si en plus une partie de ce qui est produit est emmenée par des étrangers, ça peut poser un problème. L'exportation, c'est différent. L'exportation, on la maîtrise soi-même.
Les agriculteurs, c'est nous qui décidons de vendre à l'étranger, c'est sûr que c'est pas
pareil. Les agriculteurs produisent, ils vendent à leur coopérative ou à un négociant et on a un surplus, on le vend. Ça pose aucun problème, ça c'est même plutôt quelque chose de positif. Et l'investissement des Chinois, comme on l'a vu à Carhaix par exemple sur du lait, ils investissent dans un outil de transformation, les agriculteurs français vont produire ce lait. Ça, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème en soi.
Ils se sont installés à Carré pour avoir du lait en poudre qui soit de bonne qualité après un scandale.
Et ça, c'est quelque chose de plutôt positif.
Du lait maternisé là-bas.
Alors, en l'occurrence, ces terres ont pu se vendre en contournant, on va dire, le système. Est-ce qu'il n'y a pas là une faille juridique qu'il faut résoudre? Et comment?
Alors il y a vraiment une faille juridique qu'on avait déjà dénoncée depuis un petit moment, qu'on voyait venir au moment de la loi d'avenir sur l'agriculture où il y a eu une modification législative. Sous forme de boutade, j'avais dit, mais puisqu'on ne peut préempter que si 100% des parts sont vendues, les gens vendront 99% et on ne pourra pas le faire.
Et là, effectivement,
99 ou 98% et on est derrière la glace. Ça veut dire que clairement, et on l'a entendu dans le reportage, il y a des gens dont le métier... c'est de faire déroger à l'esprit de la loi française. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez désagréable, à la fois pour le législateur, mais aussi pour le citoyen français. C'est que si on fait une loi, normalement, la loi, elle est faite pour être appliquée. Et que là, il y a des gens qui mettent tout en place pour qu'on puisse passer juste à côté.
Il faut faire voter une nouvelle loi.
Je pense qu'il faut qu'on remette un citoyen, personne physique, qui, lui, doit déclarer quand il vend des terres à la SAFER, et on va regarder si les politiques publiques qui sont mises en place, ça correspond. Et là, on peut contrôler qu'on mette les sociétés au même niveau, parce que là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait anormal qu'une société soit dans l'opacité et qu'une personne physique, elle, doive être contrôlée.
Alors justement, on va se tourner à nouveau vers Jean-Marc Chemin, parce que néanmoins, que font les Chinois quand ils exploitent ces terres? En France, on ne sait pas encore, on se dit dans l'Indre, ils viennent d'arriver, bon, mais ailleurs dans le monde, ils ont déjà acheté des... Là, on peut le dire pour le coup, des milliers, voire des centaines de milliers d'hectares, par exemple au Brésil, pour l'exploitation du soja, on en parlait. Comment se comporte-t-il sur place? Que sait-on? En Afrique aussi, ils sont très présents.
Alors, les investissements chinois vers l'étranger ont commencé au milieu des années 2000 dans tous les secteurs. Énergie, infrastructure, et donc l'agriculture aussi, mais l'agriculture pour contrôler les importations. Il faut bien différencier différentes choses. Il y a les achats de terres. Alors les achats de terres, il y en a eu en Asie, il y en a eu je crois en Russie, il y en a eu en Afrique. En Afrique, majoritairement, ce qui est produit reste sur place. À part un peu de sésame ou quelque chose qui repart en Chine, ça reste sur place. En Russie, il y en a une bonne partie qui reste sur place aussi, une partie qui revient en Chine. Et en Asie, c'est un peu aussi différent. En Amérique du Sud, ils n'ont pas acheté beaucoup de terres, puisqu'il y a eu justement des lois qui ont été prises au Brésil et en Argentine pour essayer de limiter les achats de terres par des
étrangers. Ce n'est pas forcément de l'achat, alors parfois ça peut être de la location, c'est ça?
Non, là c'est plutôt un accord. C'est-à-dire que les Chinois construisent des infrastructures, mettent en valeur des terres, construisent des ports, et en échange, ils achètent à prix négocié du soja. C'est plutôt ça. Donc il y a eu d'abord ces investissements dans les terres, mais il y a aussi eu des investissements dans des fermes, notamment laitières en Océanie ou même en Amérique du Sud, dans des abattoirs aussi. Et puis après, ils sont passés aux entreprises avec Smithfield, le géant du porc américain qui a été racheté par un Chinois. Et maintenant, ils se mettent aussi dans les traders, dans tout ce qui est trader. Et puis maintenant, c'est Syngenta. Donc, ils essayent de remonter toute la chaîne. Au départ, c'était des terres. Ensuite, ils sont allés dans les fermes. Ensuite, dans les abattoirs. Et puis après, dans les semences et même dans les traders au niveau international. Ils essayent de contrôler en fait toute la chaîne pour sécuriser leur approvisionnement. Et l'autre raison aussi pour laquelle ils sont passés sur tout ce qui est trader ou entreprise, c'est parce qu'il y avait une accusation de néocolonialisme lorsqu'ils achetaient des terres en Asie ou en Afrique. Et pour essayer d'être moins critiqués, ils sont passés aux entreprises. Parce que bon, quand on rachète Syngenta, on peut pas vraiment être taxé de néocolonialisme. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la Chine a investi, mais il y a aussi beaucoup d'investissements en Chine. La Chine accueille beaucoup d'investissements.
Beaucoup d'investisseurs étrangers.
Tout à fait,
y compris français.
Y compris français. Il y a eu des prises de participation de Danone dans un géant laitier. La majorité des usines de trituration de soja en Chine sont aux mains d'étrangers.
D'ailleurs, ça pose un problème aux
Chinois. Et ça pose un problème en Chine, tout à fait. Ils essayent justement peut-être de limiter maintenant un petit peu les investissements, eux aussi.
Alors, on l'a vu, tout ce qui est produit sur les terres achetées n'est pas importé en Chine. Est-ce que ça veut dire aussi que la terre, l'achat de terre, après la crise, c'est devenu un placement, on va dire, rentable? Aujourd'hui, les terres, on n'en produit pas. Placer son argent dans la terre, et puis est-ce que ça peut être aussi une façon de protéger ses capitaux, voire de les faire fuir hors du pays?
C'est une bonne question. C'est peut-être ça. Enfin, voilà, dans les investissements chinois à l'étranger, il y a toujours deux composantes. Il y a une composante, je dirais, nationale, parce que c'est encouragé par le gouvernement. Donc, pour essayer de produire, alors soit produire et ramener en Chine, soit produire pour les personnes sur place, pour essayer justement de limiter la sécurité alimentaire au niveau mondial. Et puis, il y a toujours une composante personnelle qui est de faire de l'argent. Et alors là, c'est chacun fait ce qu'il veut et investit où il veut. Et ça peut être une manière. Mais je pense qu'à mon avis, c'est moins pour un placement, c'est plus vraiment pour faire de l'argent assez rapidement avec ce qui est produit sur la terre.
Moi, j'avais quand même envie de vous demander, parce qu'en France, on a bien compris que les agriculteurs sont assez méfiants. Mais quand les Chinois vont acheter, par exemple, Smithfield aux États-Unis, c'est perçu comment ? Par les agriculteurs américains. Ça fait débat dans la société américaine.
Ça fait débat. Il a fallu un accord des autorités américaines. Mais bon, c'est le libre jeu de la mondialisation. On investit en Chine. Il faut accepter que les Chinois investissent aussi chez nous. Ça peut être aussi une manière de pérenniser une entreprise ou de trouver de nouveaux débouchés pour cette entreprise, puisque une partie du porc maintenant produit aux États-Unis arrive directement en Chine. Et donc, ça fait un débouché sécurisé pour une partie du porc américain.
Les investissements et la mondialisation, c'est un fait. Mais financiariser l'alimentation du monde, c'est quand même pas la même chose que financiariser l'achat d'une voiture ou d'un frigidaire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, aucun pays ne devrait pouvoir tolérer, justement, que l'agriculture et donc son alimentation soit quelque chose qui devienne un produit financier. Parce qu'on sait ce que ça a donné dans certains secteurs entiers de l'industrie, avec tous les drames qu'on a pu connaître dans le monde. Parce que je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une crise, c'est parce que la finance a largement démontré qu'elle avait des pratiques qui n'étaient pas forcément les bonnes. Financer une entreprise, c'est quelque chose de positif. Que la finance soit l'entreprise, c'est pas la même chose.
Mais là, vous parlez de financiarisation quand, justement, les acheteurs ne sont pas sur place. C'est cela que vous voulez dire ? Ne viennent pas exploiter la terre ?
Quand
on ne les connaît pas parce qu'il y a beaucoup d'opacité ?
Quand ce sont des structures financières qui sont eux-mêmes les investisseurs, comme le disait M. Chaumet.
Quand il s'agit de banques ou de fonds d'investissement.
Quand vous avez des groupes, des fonds d'investissement qui deviennent investisseurs, c'est quelque part un peu Big Brother, mais sauf que derrière... on touche à l'alimentation des hommes et que quelque part derrière, je le dis ayant vécu en Afrique, derrière la terre agricole, il y a aussi la capacité de rétention de l'eau. Donc quand on est propriétaire du foncier agricole, on a ce qui pousse dessus et on a la réserve en eau qui est dessous.
Mais si on parle par exemple du vignoble où c'est rendu aussi Anne-Laure, dans le vignoble, bon, c'est racheté par des investisseurs. C'est le même schéma que dans l'Indre, un chinois. Parfois on les connaît, parfois on ne les connaît pas. Mais en même temps, tout à l'heure, l'interlocuteur expliquait que finalement un exploitant français connaissant le métier reste sur place. Et on sait qu'il y a aussi des étrangers qui ont racheté des vignobles, des Américains, des Britanniques. Enfin, quelle différence peut-on faire entre un Chinois qui viendrait racheter un grand cru et un Américain qui s'y installe ?
Il n'y a aucune différence par le fait que ça soit un Chinois. La SAFER de Normandie a attribué des terres à des jeunes Hollandais qui vivent en France, qui produisent, qui sont, comme le disait le directeur de la SAFER du Centre, qui ont une vie locale, ça ne pose aucun problème. Ces gens-là, ce sont des personnes physiques. Qui sont là, qui sont sur place, qui ont des enfants, qui vivent au pays, alors que quand on a des investisseurs financiers, vous savez pas ce qu'ils font. Ils sont là aujourd'hui, ils peuvent ne plus être là demain. On a vu quand même des retraits de financiers importants dans des grands groupes mondiaux, alors que ces groupes dégagent du revenu, mais pas suffisamment pour l'intérêt des financiers ou des fonds d'investissement, et on se retire. Et ça, je pense que on l'a vu, et c'est majoritaire dans le monde. Il faut rappeler quand même que l'agriculture familiale est le premier utilisateur de main-d'œuvre du monde.
On a beaucoup glosé dans l'Indre au moment du rachat de ces terres sur le prix. Est-ce qu'il y a un risque de voir une flambée des prix des terres agricoles pour les jeunes agriculteurs, sachant par ailleurs qu'en France, le prix des terres est relativement bas par rapport au reste de l'Europe ?
Il y a clairement un risque. C'est toute la difficulté qu'il peut y avoir entre l'intérêt individuel et l'intérêt général. La France a aujourd'hui un véritable avantage compétitif qui est lié justement à son organisation foncière qui permettait à la France de produire. Si demain on est aussi cher que d'autres pays autour et qu'en plus on a des charges supplémentaires par rapport à d'autres, on perd notre avantage compétitif et demain, un nouveau pan de l'économie risque de s'effondrer.
Jean-Marc Chaumet, on a l'impression que ces 1700 hectares dont on parle beaucoup, nous, ce soir, dans l'Indre, c'est ridicule à l'échelle de la Chine. Pourquoi viennent-ils chez nous ? Tout à l'heure, on a parlé des grands pays dans lesquels ils ont investi massivement. Qu'est-ce qui peut les intéresser ?
C'est une bonne question. Déjà, le prix de la terre, c'est vrai qu'il est moins élevé que dans d'autres pays européens. Ça peut jouer. Si j'ai bien compris, ils ont été aussi conseillés par des Européens, voire des Français. Donc ça aussi, ça peut jouer. À mon avis, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une nouvelle stratégie. Je pense qu'il s'agit de certaines personnes qui se sont dit, tiens, je connais quelqu'un qui connaît la France, qui peut me faire un investissement là. S'ils avaient été un Irlandais, ils seraient allés en Irlande. S'ils avaient été un Italien, ils seraient peut-être allés en Italie. Après, par contre, ça peut faire des émules. Si ces investissements sont rentables, si jamais les gens s'en sortent bien et arrivent à faire de l'argent, ça peut, comme pour le vignoble, faire venir d'autres personnes. Et
j'allais vous parler du vignoble, parce que là, c'est une stratégie quand même. On peut parler de stratégie. On a dit qu'ils avaient 2-3% du vignoble bordelais.
Oui, mais c'est totalement dépendant. C'est chaque fois des acteurs totalement indépendants. Ça peut être des actrices, ça peut être des gens de l'immobilier. C'est totalement indépendant et c'est plus pour, je dirais, pour la face en chinois, pour montrer qu'on a de l'argent, pour montrer qu'on possède un vignoble et voilà pour tout ça. Donc je pense que c'est totalement indépendant et ce sont des stratégies totalement personnelles dans le vignoble, à mon avis.
Et ça peut-être être bénéfique au vin français. Mm-hmm. Qu'en pensez-vous, Emmanuel Yes, ces rachats?
Ça peut ne pas être négatif, on est d'accord. Si les gens habitent sur place et qu'ils amènent une image à l'étranger, aucun souci.
Mais l'actrice chinoise n'habitera pas sur place.
Mais c'est ça,
non,
la
mais elle
difficulté,
fait travailler
en fait.
Des exploitants. Donc là, c'est gagnant-gagnant. Dans l'Indre, effectivement, il n'y a personne dans l'exploitation. Il n'y a plus de travail.
Bon ben, merci beaucoup à vous tous. Je voulais quand même revenir une dernière fois sur la question de l'image, parce que là on parlait de ce qui peut être bénéfique. Est-ce que vous pensez que ça peut être quand même positif finalement pour l'agriculture française d'avoir des relais comme ça en Chine et que ça peut ouvrir de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés pour nous?
Alors pour le vin, oui, je pense vraiment que ça, pour moi ça peut être bénéfique. L'actrice chinoise dont vous parliez maintenant vend son vin en Chine, fait des wine tasting, elle est extrêmement connue. Et ça fait vraiment un relais. Alors même si elle vend son vin, c'est quand même du vin français de Bordeaux, Saint-Émilion. Pour les grandes cultures, là j'avoue que je ne sais pas, il faudra vraiment attendre de savoir ce qu'ils font, quelles cultures ils font, où est-ce qu'ils le vendent et comment ils le vendent.
Hmm. Bon, ben merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission qui nous a emmenés fort loin d'ici, au pays du dragon chinois, fort gourmand, on l'aura compris, en terre. Jean-Marc Chaumet, Emmanuel Yetz, vous avez donc participé à notre magazine « Quand la Chine dévore ou grignote les terres françaises ». On a hésité entre les deux titres. Magazine signé Anne-Laure Chouin, réalisé ce soir par Annie Bro, à la technique Anthony, merci beaucoup à lui. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission dès demain sur notre antenne. Vous pouvez également la podcaster pendant 1000 jours, la commenter sur notre site franceculture.fr.